Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Il faut marcher. Marcher tout seul. C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Marcher. Marcher tout seul. Marcher tout seul.
Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Jacques. Aujourd'hui, ça va être un imbroglio de poutine, multi-poutine, comme dans des restaurants où il y a 16 sortes de poutine. Mais en gros, c'est autour de la paix puis du futur. Fait que, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous résume ça, là, on a la capacité de co-créer un beau futur. Et puis, on le fait pas trop. Hein? Par contre, il y a aussi le contraire qui existe. Puis eux autres, ils sont bons, ils sont compétents dans leur non-compétence, c'est-à-dire les bombes atomiques. Fait que je vais parler de ça un peu plus tard. Et puis pour l'instant, je vous donne une liste de livres sur le futur que j'ai, puis je vous fais partager les titres. Là. Fait que Julien Vidal, c'est 2030 glorieux, c'est Utopie vivante. Ensuite, Cyril Dion, c'est Demain, un nouveau monde en marche. Partout dans le monde, des solutions existent. Il y a un film qui a été fait là-dessus aussi. Et puis ensuite, c'est Julien Vidal encore, c'est Imagine demain. Puis ça, c'est le prochain, c'est 20e siècle. Les autres, c'était 21e siècle. Là. Maîtriser le futur, c'est de Boris Pregel qui a écrit ça. Et il y a Jonas Salk qui est un prix Nobel, qui est co-écrivain de ça. Là. Ensuite, j'ai Manuel d'histoire du futur, comment nous avons changé de cap de 2020 à 2030. Puis vous avez « Inventons notre avenir », c'est Christina Figueres et Tom Rivett-Carnac chez Albin Michel. Et finalement, « Transformer le futur », l'anticipation au 21e siècle. Fait que là, vous avez une liste de livres pour vous intéresser au futur et vous informer, à part de cette émission ici. En gros, puisque je vais vous parler de bombes atomiques tantôt, là, je disais que les bombes atomiques, c'est l'antithèse de l'émission « En nous le futur », dans le sens que un des auteurs dont je vais vous parler, c'est Daniel Ellsberg. Il dit qu'il n'y a pas de futur pour l'humanité si on n'annule pas, si on ne démantèle pas les bombes atomiques. Alors, en contraste de ça, je vous ai déjà parlé du livre de Robert, c'est... comment ça s'appelle, donc? La théorie du beigne, la théorie du donut. Elle vise une zone juste et sûre pour l'humanité, ça c'est le milieu du beigne, à la condition que le plafond écologique soit respecté, ça c'est la partie du haut du beigne, qui est constituée de 9 limites à ne pas respecter, à respecter, mais c'est parce qu'il y en a 7 de déjà non respectées. Et puis, le plancher social, lui, c'est la partie du bas du beigne, c'est... comme 12 besoins sociaux à satisfaire, d'accord? Si on veut une zone juste et sûre pour l'humanité. Alors, j'achève la phase 1 de cette émission de radio. J'ai pas loin de 110 émissions de fait, là, puis il en reste... Disons que pour me rendre à la fin de la phase 1, ce serait, d'après moi, vers la fin janvier, parce qu'il reste... La paix, il en reste une ou deux émissions. Aujourd'hui, c'en est une sur la paix, la construction de la paix. Et ensuite, il va y avoir les Premières Nations et la réforme de la démocratie. Ça devrait me mener à mi-janvier. Et je pense que j'ai travaillé à peu près 50 thèmes au moins au cours de ces 110 émissions. Fait que dans la phase 2, ce que je me suis dit... c'est en travail, là, c'est en création. Il y aurait la création de 35 comités. Pourquoi 35? C'est justement, tu sais, tout à l'heure, je vous parlais de la théorie du donut. C'est 9 limites plus 12 besoins à satisfaire. Donc, c'est 21 aspects. Puis Éloi Laurent, qui est un autre économiste, comme Madame Raworth, lui a fait une boucle sociale écologique parce qu'il trouvait ça plus dynamique, tout en respectant la théorie du donut. Alors, c'est 14. Donc, 21 plus 14, ça fait 35 dimensions pour arriver à une paix viable, à une humanité viable, une terre viable. OK? Alors, moi, je vois 35 comités à faire. Mais sur les 35, il y en a peut-être déjà qui existent. Tu sais, exemple, pour la paix, il peut y avoir Solidarité populaire Estrie ou Solidarité sans frontières qui existent déjà. Mais à ces comités-là, on pourrait ajouter, moi, je propose un conseiller ou une conseillère qui viendrait soit de l'université, soit du cégep. Et puis, le but, je pense que le but, ce serait de créer un département des études de la paix à l'Université de Sherbrooke. Il pourrait y avoir un lien avec l'Université Bishop, qui a déjà un département de l'agriculture biologique. C'est déjà fantastique, ça. J'ai visité la ferme de 140 heures, que je vous en ai parlé. Et puis, également, à l'Université Bishop, il y a déjà un cours de changement climatique. Et dans ce cours-là, il y en a un en particulier qui fait des liens entre les changements climatiques et l'agriculture biologique. À Sherbrooke, vous avez qu'il y a 37 % de territoire agricole et ça pourrait devenir un 37 % agroécologique. De plus, le département de la paix que j'envisage, il pourrait y avoir un lien avec, justement avec l'Université Bishop. Donc, tu sais, une sorte de bipartisme, Université de Sherbrooke et Université Bishop. D'ailleurs, Bishop est à Sherbrooke. Alors, de quoi qu'on parlerait dans les études de paix, là? Quels seraient les aspects ou les sous-sections? Il y aurait d'abord la psychologie. C'est exemple, quels sont les effets psychiques de genre à peu près 85 ans, c'est ça qui se passe, 85 ans, depuis l'existence des bombes nucléaires. C'est quoi l'effet psychique de ça? Il y en a un certainement. Soit de peur, soit d'engourdissement. Il y aurait donc la psychologie qui serait là, il y aurait la futurologie, il y aurait l'écolittératie et la chimie, n'est-ce pas, avec le génie. Donc, ce serait ça, ça ferait partie de ça, c'est à creuser. Puis, il y aurait justement les 35 comités, c'est une communauté de pratique intéressée à la viabilité de l'humanité locale et globale. Voilà. Puis, donc, pour l'émission d'aujourd'hui sur la paix, je vous rappelle que Lannis Pauling, dont j'ai déjà parlé en 1948, il a écrit un livre, No More War. Lui, il a gagné deux prix Nobel, le prix Nobel de la chimie et celui de la paix. Ensuite, Seymour Melman, j'en ai déjà parlé aussi, en 1961, il a publié The Peace Race. Quel beau titre! Et nous sommes, je ne sais pas si 0.0000, là, dans l'évolution de la Peace Race. Il y a Hélène Caldicott, une médecin qui a écrit Nuclear Madness. Je pense que c'est la première médecin qui a dit que les bombes nucléaires n'avaient pas d'allure, surtout concernant la santé. T'sais. Et puis, Rosalie Bertel, elle, c'est une mathématicienne qui a écrit No Immediate Danger, c'est sans danger immédiat, dont je vous ai déjà parlé aussi, que j'ai déjà interviewé elle-même. Là. Elle dit que, t'sais, contrairement aux militaires qui disent que la faible radiation, c'est pas dangereux, elle dit oui, c'est dangereux. La radiation s'accumule. Et puis, les 2000 essais de bombes nucléaires ont fait 150 millions de tonnes de déchets radioactifs qui sont dans l'atmosphère et qui descendent lentement. Alors, les militaires disent qu'il n'y a quasiment pas de victimes à l'ère nucléaire, excepté les morts d'Hiroshima et Nagasaki. C'est faux. Il y a 16 millions de victimes. Mais victimes, ce n'est pas toutes des morts. Hein? C'est aussi des handicapés, surtout physiques. Et il y a Buckminster Fuller, dont je vous ai parlé à maintes fois, qui dit, lui, qu'on pourrait avoir un beau niveau de vie pour toute l'humanité sans nuire à l'écologie et sans guerre pour y arriver. Puis il y a bien Mme Robert, 40 ans plus tard, qui a écrit La théorie du donut, et Éloi Laurent dans son livre « Et si la santé guidait le monde ». L'espérance de vie vaut mieux que la croissance. Fait qu'il y a Fridtjof Capra qui donne un cours sur l'écolittératie en 12 cours que je suis en train de suivre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Daniel Ellsberg qui a écrit de Doomsday Machine, Confessions of a Nuclear War Functionaire. Tu sais. Les machines à apocalypse, confession d'un fonctionnaire en préparation de la guerre nucléaire. Parce que c'est un gars qui a changé d'idée. Il a quitté le fonctionnarisme pour la préparation de la guerre nucléaire. Il a photocopié à cachette des documents secrets. Il les a publiés, c'est Pentagon Papers. Et puis, il y a une boîte qui était perdue, finalement, là, parmi ces photocopies. Et puis, ça lui a servi pour écrire cet autre livre-là de Doomsday Machine. OK. Ça va être à peu près l'émission-là. On peut déduire que la préparation à la guerre nucléaire, ça coûte cher en argent et ça coûte cher en pollution. Également, il y a 90 % des bombes nucléaires qui appartiennent à la Russie et à aux États-Unis. Ce qui, finalement, c'est... Tu sais, j'ai vu un article qui disait ça, là. Mais M. Ellsberg qui a écrit « Doomsday Machine », mais c'est ça, c'est la Russie et les États-Unis ont chacun une machine à apocalypse. Et un autre monsieur dont j'ai le livre, c'est Eric Schlosser. C'est « Control... » Attendez un petit peu, une seconde. C'est « Command and Control » de Eric Schlosser. Finalement, il montre qu'il n'y a pas de commande et de contrôle concernant les bombes nucléaires. Il n'y a pas de sécurité, contrairement à ce que nous fait croire le militarisme. Et il pourrait y avoir un accident nucléaire ou un acte de terrorisme ou une action volontaire, là. Puis l'action volontaire, c'est parce que ceux qui prennent la décision, c'est un pouvoir diffus. C'est pas seulement le président des États-Unis ou Poutine. Et donc, je me souvenais pas où est-ce que j'avais pris cette référence-là de M. Schlosser ou M. Ellsberg. Et je m'en suis souvenu ce matin, c'est le bulletin of Atomic Scientist, dont je reçois un bulletin, justement, une fois par semaine. Et puis, j'ai regardé ce matin dans le bulletin M. Schlosser et j'ai eu un texte que j'ai pas eu le temps de lire, de 14 pages. Mais il y a quelque chose qui m'a impressionné. J'ai trouvé un paragraphe où il disait exactement la même chose que M. Ellsberg. C'est-à-dire que les bombes nucléaires, c'est dangereux. Il n'y a pas de sécurité. Et immédiatement, il faut réduire le nombre et il faut augmenter la sécurité. Mais réduire le nombre, c'est jusqu'à ce qu'il y ait zéro bombe atomique. Ça, c'est le but, OK? Fait que là, il y a un point commun avec M. Ellsberg. Et puis, j'ai eu le temps aussi de lire une petite histoire. C'est que M. Schlosser, il a écrit le livre Fast Food Nation, dont la nation de la... Tu sais, du fast food, là. Ça, c'est les États-Unis. Et puis, il a vu dans ses recherches une histoire qui lui a tellement impressionné que ça l'a mené à l'écriture du deuxième livre sur Command and Control. En tout cas, les dangers du nucléarisme, là. Parce qu'il y a un sous-titre que je vais vous dire tout à l'heure que je ne vois pas d'ici. Alors, il donne un exemple qu'il a fait flasher, là. Dans un endroit où il y a des bombes atomiques qui sont sous terre, là, il y a un monsieur de Domino, livreur de pizza Domino, qui est venu livrer des pizzas aux travailleurs, mais il a passé à la sécurité sans vérifier. Sans qu'il y ait de vérification de son identité. Alors lui, finalement, bien, c'est ça qu'il lui a dit. Waouh, gros danger, tu sais, n'importe qui pourrait passer là. J'ai dit depuis l'an 2000 qu'on est capable de se créer un beau niveau de vie écologiquement et pacifiquement. On ne l'a pas fait. Maintenant, on est pogné pour « Réparer le tissu déchiré du monde ». Ça, c'est un livre de Abdenou Bidar, le philosophe. Puis réparer le tissu déchiré du monde, c'est donc les autres, la nature et nous-mêmes. Et je voudrais vous dire, parce que là, il faut que j'accélère, je vais vous dire beaucoup de choses dont je vous ai déjà parlé, mais qui fait un résumé. Alors, Gorbatchev, dans son livre « Perestroïka, vue neuve sur notre pays et le monde », il dit que nous devons coopérer à l'avenir pour régler des problèmes avec la nature et aussi pour régler les problèmes de pauvreté. Puis Seymour Melman, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, j'ai son livre ici, c'est « Disarmament and Conversion ». Lui, c'est un ingénieur industriel qui a écrit une vingtaine de livres pour montrer que, au lieu de créer la paix, bien, tout l'argent qui est dépensé dans le militarisme aux États-Unis, ça fait que ça crée une économie de deuxième classe. Ça, personne ne parle de ça, là, mais il y a beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas belles aux États-Unis à réparer. Puis donc, il y a un syndicat qui a écrit « Let's rebuild America ». Il y a une technologie de « Bill of Rights ». Puis il y a une sorte de... Les gens qui honorent Seymour Melman, cet ingénieur industriel qui a écrit 20 livres sur la conversion de l'industrie militaire et défense civile. Fait que le titre, si vous voulez savoir, c'est « The Neglected Cost of the Warfare State, an Austrian Tribute to Seymour Melman ». Alors, ça vient du Journal of Libertarian Studies en 2010. C'est « The Neglected Cost of the Warfare State, an Austrian Tribute to Seymour Melman ». Puis Seymour Melman, j'ai un autre livre de lui qui s'appelle ici « Profits without production », mais ça montre que l'industrie américaine fait des profits, mais c'est aucune production qui est utile à la société civile. Alors, tout à l'heure, je voyais sur la table une conférence anti-sioniste. C'est comprendre le sionisme. C'est le samedi 22 novembre à 14h à l'Université de Sherbrooke. C'est la zone E1, c'est-à-dire du nombre 1001. Et puis, j'ai manqué malheureusement ce matin au Baobab, mais il fallait que je le manque, là. Mais c'est peut-être que je vais interviewer le monsieur, c'est Stephen Cunane. C'est un chercheur spécialiste en alimentation énergétique du cerveau. Il a fait une conférence « Et si ce que nous mangeons influençait notre cerveau? » Alors, peut-être qu'on va se revoir, monsieur Cunane, ici à la radio. Et puis, je voyais, tu sais, hier, mon cours 9, c'est la vie et le leadership dans les organisations, le cours sur l'écolittératie. Il parle vraiment de l'importance des communautés de pratique. Fait que moi, ça m'a inspiré davantage pour que la prochaine émission, la phase 2 de l'émission, ce soit une communauté de pratique, c'est-à-dire comme genre 35 comités qui s'occupent des 35 dimensions nécessaires pour une viabilité. Et puis, ça pourrait déboucher sur un département de paix à l'université. Et je recevais ce matin aussi de la Fondation Rivière le palmarès et carte des déversements d'eau usée au Québec. Et c'est déjà terminé pour la partie sans publicité. Je fais une publicité et je vous reviens. Alors, rebonjour, c'est Claude à Nous le futur. La pause a été plus ou moins longue parce qu'il y avait de la musique que je n'avais pas prévue. Fait que des petites nouvelles ce matin de Solidarité populaire Estrie. On nous dit que le 18 novembre, il va y avoir une journée d'action régionale « Stop au saccage du filet social » à l'appel de la Coalition Main Rouge. Et le samedi 29, c'est une grande manifestation dans la rue pour le Québec. Et le 8 décembre, je pense, c'est ça, c'est le comité spécial grève sociale. Fait qu'allez voir le Solidarité populaire Estrie pour avoir le calendrier. Exemple, il va y avoir aussi des contes et causeries sur la Palestine le 14 novembre, la semaine de la décroissance le 17 novembre au 21. Stop au bon saccage, j'en ai parlé. Mémoire à la mémoire de toutes les victimes de guerre. Donc, ça, c'est le 18 novembre. C'est une marche à la mémoire. C'est pas une mémoire de la mémoire. Okay. Et puis, il va y avoir la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc, c'est ça, je vous le redis. Allez voir Solidarité populaire Estrie pour le calendrier des activités sociales. Et donc, ce matin aussi, je recevais du Rocky Mountain Institute plusieurs articles. Un de ceux-là, c'est « Les fenêtres, ça pourrait être le futur des climatiseurs ». ou des chaufferettes. OK. Puis, bien, il aurait pu y avoir, mais ça a été annulé à cause de la tempête, là, une marche commémorative à la mémoire de toutes les victimes de guerre. Fait qu'allez voir aussi Solidarité Populaire Estrie. Ils vont vous dire c'est quand que c'est reporté. Bon, j'ai un document qui dit que c'est bon de marcher, hein? Piéton Québec. Tant qu'à marcher, marchons pour la paix. Et là, j'ai quelques documents. Je vous donne des titres parce que j'ai pas le temps. Là, je m'en vais vous parler du livre sur la paix, là. Fait qu'un Québec bouleversé par un climat perturbé, c'est dans Le Devoir, ça. Nous avons besoin du cœur, affirme la climatologue canadienne Catherine Eau. Et la COP30, c'est la science, montre que nous pouvons encore atteindre en bas de 1,5 degré. Okay? Et puis, les négociations sur le climat devraient être guidées par 10 Science Insights, dit Climate Science. Et Navdanya International, ça, c'est la lettre de nouvelles de Vandana Shiva, là. Ça donne des la biodiversité, l'agroécologie, c'est super important, super intéressant. Il y a Icahn France qui publie une lettre de nouvelles. Je vous suggère d'en devenir membre. C'est ICAN, c'est International Campaign Against Nuclear War. Ça vient de la France, mais ils disent ça pareil. Fait que il y a Positive News. Eux autres, une fois par semaine, ils disent aussi What went right this week? The good news you should know about. Et puis, Le Devoir se demande, allons-nous sacrifier l'humanité pour le bien de l'industrie des énergies fossiles? Et puis, Le Devoir se demande aussi, est-ce que le Canada est un cancre climatique? Et imaginez-vous qu'à la COP30, un groupe de pays déclare la guerre à la désinformation climatique. Par contre, à la COP30 également, il y a dans la délégation canadienne des membres de l'industrie fossile. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont le tour de se mettre là. Fait que la culture de la paix, ça, c'est... Ça existe, là. Les maires pour la paix de la France ont des articles sur la culture de la paix et la gestion locale. Fait qu'il y a 8 domaines d'action de la culture de la paix. Par exemple, c'est renforcer une culture de la paix par l'éducation, promouvoir le développement économique et social durable, promouvoir le respect de tous les droits de l'homme, assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, favoriser la participation démocratique, développer la compréhension, la tolérance et la solidarité, soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances, puis promouvoir la paix et la sécurité internationale. Concernant l'éducation à la paix, j'ai pas mal de documentation. Là. Fait que si vous faites Mapping Peace Education ou bien Peace Education Campaign, vous devriez avoir tout ce qui concerne l'éducation à la paix, ce qui est super important, n'est-ce pas? OK. Et puis, je voyais un article qui vient de la revue La Relève et la Peste. Il disait qu'en France, là, c'est le ministère de l'Agriculture a saboté un rapport pour minimiser le lien entre pesticides et cancer. Des scientifiques dénoncent comment un rapport sur la santé et les pesticides a été édulcoré par l'État. Réécriture du cabinet de la ministre de l'Agriculture, menace de sanctions, suppression de certaines mentions. Le cabinet a tout fait pour minimiser l'impact des pesticides sur la santé humaine. Dit La Relève et la Peste. Bon, fait que là, j'en suis rendu à un livre très important que j'ai reçu par prêt entre bibliothèques. Fait que je dois le retourner bientôt. Ça s'appelle... c'est de Ryan Esler. C'est Le Calice et l'Épée. Bon, c'est quand même assez vieux, là. C'est quand, ça? 1987. Moi, je l'ai déjà lu et j'ai trouvé ça très important parce que Mme Esler, elle dit qu'il y a déjà eu 5000 ans de paix sur la Terre et puis c'était dans le cadre d'un matriarcat. Je vous lis l'endos du livre. Le calice et l'épée constituent une synthèse brillante dans la tradition de Spengler et de Toynbee, où se rejoignent l'histoire, la préhistoire, l'art, la littérature, la sociologie, l'archéologie, l'économie et aboutissant à un nouvel éclairage de notre passé, de notre humaine condition et des rapports entre l'homme et la femme. Ryan Esler consolide de façon convaincante la théorie selon laquelle, au néolithique, au temps du règne de la grande déesse, ont existé des civilisations gynécocratiques ou matriarcales que les plus récentes découvertes archéologiques ne cessent de confirmer. L'apparition du fer dans la fabrication des armes ont détruit, selon l'auteur, cette civilisation dominée par le féminin, non violente, non hiérarchique, anhistorique, en un temps où la raison du plus fort l'emportait, ne l'emportait pas sur le plus faible. L'auteur préconise un retour à une authentique solidarité associant l'homme et la femme contre une civilisation de domination ou le pouvoir masculin destructeur. Ainsi que l'écrit le Dr. Helen Caldicott, il appartient maintenant aux femmes de sauver le monde. Avec le support des hommes, vous en avez un ici. Fait que, donc, c'est ça. Ça s'appelle Le calice et l'épée de Ryan Hessler. Et cette autrice-là a écrit des livres récemment, elle écrit encore. Là. C'est surtout, elle appelle ça le partnership, une société de partenariat où l'homme et la femme sont partenaires. Maintenant, vient le temps de vous parler de l'essentiel de cette émission-là. Le livre « Command and Control, Nuclear Weapons, The Damascus Accident and the Illusion of Safety ». C'est de Eric Schlosser, S-C-H-L-O-S-S-E-R, que j'ai eu par prêt et entre bibliothèque. Fait que lui, il vient de Brossard. Donc, on dit là-dedans que c'est une investigation journalistique où il creuse très profondément pour voir les secrets à propos de la gestion de l'arsenal nucléaire américain. Donc, c'est un bilan des accidents, de l'héroïsme et des breakthroughs technologiques. Là. Command and Control explore le dilemme qui a existé depuis le début de l'ère nucléaire. Ce dilemme-là, c'est comment vous se servez des armes nucléaires de destruction de masse sans être détruites nous-mêmes par ces armes. Cette question n'a pas été résolue, selon Schlosser, et ça prend une combinaison de la faillibilité humaine et la complexité technologique qui pose un très gros risque pour l'humanité. Bon, OK. Il y a Jonathan Schell qui a écrit « The Fate of the Earth ». Tu sais, selon l'auteur, là, fait que vous pouvez lire Jonathan Schell qui écrit sur le destin de la Terre, là, qui est en respect avec ce livre-là. Ce qu'il dit, c'est... je traduis de l'anglais au français rapidement. Là. Ceux qui sont pour la paix, il y en avait 70%, je pense, en 1982. Puis Reagan les faisait passer pour des marxistes et puis des gens du KGB. T'sais. Mais en réalité, il y avait 70% des gens qui étaient pour la paix en 1982. Donc, là, j'arrive au livre de Doomsday Machine, Confession d'un fonctionnaire qui a participé à faire l'armement nucléaire. C'est Daniel Ellsberg. Alors, ce monsieur-là, il a changé d'idée à un moment donné, puis il est devenu un whistleblower. Comment ça s'appelle? Je l'ai oublié. En tout cas, c'est le lanceur d'alerte. Bon, c'est ça. C'est un des premiers lanceurs d'alerte. Alors, il s'est attaché lui-même à la rail de chemin de fer qui menait à Fort Knox. C'est l'endroit où ils font des bombes atomiques. Puis il disait qu'une bombe atomique, c'est un nouvel holocauste, équivalent facilement Auschwitz. Puis que les bombes actuelles, c'est des milliers de fois plus fort que celles de Nagasaki. Et il y a un article qui vient de Peace Education Network. Le titre, c'est « Nous devons mettre fin aux armes nucléaires avant qu'elles ne nous mettent fin à nous ». Fait que ça dit que ça fait partie de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, cet article-là. Là. Fait que c'est la seule affaire que je voyais en français qui est l'équivalent du livre, c'est pour ça que je vous le dis. Vous voyez l'article « Nous devons mettre fin aux armes nucléaires avant qu'elles ne nous mettent fin ». Alors, je vais refaire un petit peu de musique et avant d'explorer plus particulièrement M. Ellsberg. De retour à Nul Futur, c'est Jean Cormier qui chantait. Et donc là, je vous parle de The Doomsday Machine, Confession of a Nuclear, nuclear Functionaire, tu sais, qui est devenu activiste. Alors, ce monsieur, c'est Allen Ginsberg. Pas Ginsberg, Ellsberg. Alors, il est devenu, après avoir été fonctionnaire pour préparer des guerres nucléaires, faire des plans, il a été lanceur d'alerte et puis il a été arrêté 87 fois lors de contestations du militarisme. Il y a eu un procès puis il s'en est sorti après ça. Il est décédé en 2023. Alors, il dit, tu sais, son livre, c'est 400 pages, là, un paquet d'exemples de ce qu'il ne voit pas, là, pourquoi que ça ne voit pas le nucléaire. Et il dit finalement, à la page 343, c'est que ce que je propose, c'est un effort pour mobiliser le support international pour faire un programme pour arrêter immédiatement, si possible, pour la survie du monde, là, l'armement nucléaire. Fait que la logique du programme, c'est simple à comprendre. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de réduire le danger. Et il y a des étapes concrètes, des pas concrets pour faire ça. T'sais. Fait que ce que lui propose, c'est un U.S. No First Use Policy, une politique de la part des États-Unis pour ne pas se servir des armes nucléaires en premier. Parce que ça, c'est un secret, là. Leur but, c'est se servir des armes nucléaires en premier. Okay? Ensuite, Probing Investigate Hearing, c'est faire des débats là, sur les plans de guerre à la lumière de la nouvelle théorie des hivers nucléaires. Ça, c'est Carl Sagan qui a trouvé ça. Fait que éliminer les ICBM, ça, c'est une sorte de bombe atomique. Ensuite, aller passer au travers, à l'aide d'explications, là, de l'illusion qu'on n'est pas capable de... L'illusion qu'on serait capable de détruire l'ennemi par une première attaque, tu sais, le First Strike Force. Ensuite, oublier ça, les profits, les emplois, pour se défendre pour rien, là. Et puis, finalement, sa dernière conclusion, c'est le démantèlement au complet de l'American Doomsday Machine, ça veut dire l'industrie militaire nucléaire américaine. Fait que il conclut en disant que le changement climatique aussi, c'est un danger qui est presque équivalent du danger de guerre nucléaire qui, tous les deux, pourraient mettre fin à l'humanité. Alors, il se sert de Martin Luther King pour dire qu'on n'a pas le choix, c'est la coexistence non-violente ou la co-annihilation violente. Est-ce que j'ai bien prononcé? Je pense que oui. Ocytocine, et non pas ocytonine, comme j'ai fait une erreur de prononciation l'autre jour. Une petite pause sympathique, c'est, je vous parle d'un livre de Pierre Mwanda. C'est « Réenchanter votre vie grâce à la communication non-violente ». Ça devrait être un livre à lire pour le ministère de Défense américain et russe. Puis de Marc Finau, F-I-N-A-U-D, je vous parle du livre « L'arme nucléaire, éliminons-la avant qu'elle nous élimine ». Voici Lando qui nous dit « Cet ouvrage est une compilation d'articles et de tribunes publiées par l'auteur afin d'informer le public parfois anesthésié par la propagande officielle et les efforts du complexe militaro-industriel sur le danger existentiel que l'arme nucléaire fait peser sur l'humanité et la planète ». Contredisant la croyance que la dissuasion nucléaire garantit la paix, l'auteur souligne l'abaissement inquiétant du seuil d'emploi des armes nucléaires dû à des choix doctrinaux ou technologiques, ainsi qu'à la menace d'escalade de conflits régionaux. Il mentionne les efforts de la communauté internationale pour abolir cette arme désormais jugée illégale par nombre de pays. Il appelle de ses voeux une mobilisation de la jeunesse, dont l'avenir est rendu incertain non seulement par le dérèglement climatique, mais aussi par l'épée de Damoclès nucléaire qui pèse sur nous. Il parle de la jeunesse, mais les aînés supportent ça, sont aussi contre l'armement. Et puis, j'ai un document qui s'appelle « L'illusion nucléaire, 2 points, la face cachée de la bombe atomique ». Vous pouvez lire ça dans Internet facilement. J'ai un document qui s'appelle « Le concept de la dissuasion nucléaire » qui explique ça, là. qui montre que il y a 70 000 armes nucléaires aujourd'hui au milieu des années 80. Puis il y en avait ça, mais aujourd'hui, il y en a environ 12 000. Mais 100 explosions nucléaires suffisent à détruire la civilisation si la théorie de Levin nucléaire est correcte. Et ça semble correct. Les explosions nucléaires non désirées ont été évitées par chance et non par la maîtrise des armements. Et ce qui a empêché les explosions nucléaires non désirées, c'est la désobéissance ou bien la défaillance technique. Les dirigeants actuels ne sont pas prêts à faire face à la menace nucléaire, contrairement au peuple. Et ça commence à l'émission « À nous le futur ». Les États-Unis et la Russie possèdent 90 % du stock d'armes nucléaires mondiales. C'est peut-être ce qui a fait dire à M. Ellsberg, dont je vous ai parlé, là, de « Doomsday Machine ». Il y a deux machines qui sont capables de créer un apocalypse, c'est aux États-Unis et à la Russie. Et puis, si 1 % de l'arsenal nucléaire mondial explosait, ça suffirait à détruire la civilisation selon la théorie de l'hiver nucléaire. Ensuite, qu'ajouter? Que dire de plus? Ce qui me paraît essentiel, dit l'auteur, c'est de pouvoir rendre possible le choix démocratique sur ces questions. Les 9 pays dotés ont dépensé entre 2010 et 2020 1 000 milliards de dollars pour leur armement nucléaire. Si ça allait pour réduire la pauvreté, on aurait réussi. Alors, quel est le rôle de la chance? On dit qu'il y a des cas où on a évité des explosions non désirées du fait de désobéissance ou du dysfonctionnement technique. On a consulté les archives occidentales. Il y a eu 32 événements qui auraient pu être catastrophiques en 30 ans aux États-Unis, soit un par an. Dans les 30 et 5 à 50 dernières années, on n'a pas d'informations car les archives sont encore couvertes par le secret. Il n'y a pas d'adhésion de la population, mais un sentiment d'impuissance et de désengagement. Alors, justement, c'est un peu, des fois ce que j'éprouve ça moi aussi, là, de sentiment d'impuissance. Mais mon désir de continuer à nous le futur, puis mon désir de créer un département d'études de la paix à l'université et d'avoir 35 comités qui pourraient réfléchir à avoir un beau futur, bien, c'est un peu pour essayer d'avoir moins de sentiments d'impuissance. OK. Ensuite, il y a ICAN France, là, International Campaign Against Nuclear Arms, qui ont écrit un document qui s'appelle 20 mensonges sur les armes nucléaires. Et c'est le temps d'une nouvelle publicité. Je vous reviens. Alors, à nous le futur vous dit bonjour, puis j'espère que vous allez bien. Fait que je vous parle d'un article de l'Organisation mondiale de la santé. C'est les effets de la guerre nucléaire sur la santé publique. C'est pas conseillé une guerre nucléaire pour la santé publique, dit l'Organisation mondiale de la santé. Et puis le Bulletin of Atomic Scientists dit que, autrefois considéré comme une protestation symbolique, le traité d'interdiction nucléaire croît de plus en plus. Et comme je vous ai déjà dit, nous avons tenté, les artistes de la paix et moi-même, au conseil municipal, de faire signer par la ville de Sherbrooke un soutien au traité d'interdiction des armes nucléaires. On n'a pas réussi pour le moment, mais il y a au moins 100 villes qui ont fait ça en France. Et puis, finalement, pour terminer, je vous dis que il y a un article qui s'appelle « Summary of Canada and the Bomb, a public seminar on Canada and nuclear security ». Fait que nous vivons dans un âge de gladiateur nucléaire, on dirait. Et puis le Canada semble du côté de la foule qui appuie les gladiateurs nucléaires au lieu de faire un appel des villes et des collectivités territoriales pour soutenir le traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors, allons-y, interdisons-les. Et souhaitons-nous bonne chance. Je termine avec ça. Je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de joie. Informez-vous sur comment convertir l'industrie militaire et des fins civiles. C'est possible, c'est faisable. Et puis, ce faisant, on va devenir riche, heureux et sécure. Salut, c'est Claude pour un nouveau futur.